solitude, ça existe. La solitude, c'est d'abord, ça fait partie de la condition humaine, ça fait partie de la condition de certains hommes, de certains êtres humains. Et la solitude, c'est une condition qui n'est pas nécessaire, qui n'est pas bonne, et qui existe parce qu'il y a chez l'homme, chez l'être humain, des manques. Créer la solitude, c'est une pauvreté dans l'esprit quelque part, un manque de richesse quelque part dans l'esprit, causé par certains blocages, soit d'ordre émotif ou soit d'ordre simplement psychologique, mental. La solitude, c'est pas bon parce que l'homme, soit l'homme sur le plan matériel, c'est-à-dire l'esprit dans la matière, ou l'esprit en dehors de la matière, doit continuellement, au cours de l'évolution, convenir avec d'autres esprits dans la matière ou en dehors de la matière. Donc, la communication, c'est fondamental dans le cosmos. C'est fondamental, la communication. Et là où il y a communication, il n'y a plus de solitude. Maintenant, dans le phénomène de la solitude, dans ce qu'on appelle la solitude, il y a différents aspects. Il y a des gens qui peuvent être seuls dans leur esprit, mais ne pas sentir la solitude. Il y a des gens qui peuvent être dans le public et sentir la solitude. Il y a des gens qui sont dans une ville comme New York et qui sentent la solitude. Donc, la solitude, ce n'est pas nécessairement quelque chose de physique, dans ce sens que ce n'est pas parce qu'une personne est en contact avec des êtres humains qu'il n'y aura pas de solitude. La solitude prend son origine dans l'état d'esprit de l'homme. Et pour que l'homme dépasse la solitude, il faut qu'il y ait en lui certains ingrédients. Un de ces ingrédients, c'est la capacité de communiquer. Deuxième, c'est la capacité d'aimer l'être humain. Il y a des êtres qui n'aiment pas les êtres humains. Ils n'aiment pas les êtres humains parce qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Aimer l'être humain, il faut s'aimer soi-même. Donc, ces êtres-là peuvent vivre la solitude. Et un autre ingrédient dans la solitude, c'est la tristesse de l'esprit. Il y a des êtres humains qui vivent une sorte de tristesse dans l'esprit. Tristesse qui naît d'un manque d'énergie émotive, qui naît d'un manque de créativité à travers l'énergie émotionnelle. Ça crée une tristesse. Et les êtres qui vivent de tristesse dans l'esprit sont des êtres seuls, qui ne peuvent pas apporter dans le monde autour d'eux facilement de la joie. Donc, un être qui est victime de la solitude, c'est un être qui n'est pas capable d'apporter facilement de la joie. Maintenant, dans la solitude, il y a une autre chose, il y a un autre, pas un aspect, mais il y a une autre dimension. Un être qui est très, très conscient, par exemple, est un être solitaire. Il n'est pas solitaire dans son esprit. Il est solitaire dans son intelligence. Alors, il est solitaire dans son intelligence parce que son intelligence présuppose une condition d'entendement vis-à-vis la vie, sa vie personnelle, la vie du monde, la vie de la planète, la vie de l'évolution. Donc, il est solitaire dans son intelligence, mais il n'est pas un être victime de la solitude sur le plan humain. Donc, un être qui est solitaire dans son intelligence va être capable, lorsqu'il descend de sa montagne, de rencontrer des gens dans la vallée et de s'entretenir avec eux. Et ainsi, il va briser sa condition, et ensuite il va revenir, peut-être plus tard, à sa montagne, pour confronter encore plus loin, d'une façon plus vaste, les mystères de la vie, et ainsi de suite, selon sa vibration, selon son intelligence, selon sa capacité personnelle, évolutive, de traiter avec des problèmes d'ordre évolutif que seul lui, en tant qu'être, peut traiter. Et ensuite, il va redescendre de sa montagne et il va aller retrouver ses amis. Ça, c'est un aspect de la solitude. Sur le plan humain, sur le plan de la société d'aujourd'hui, plus la société se fragmente, plus la société devient inhumaine, plus elle devient aliénée, plus l'être humain souffre de solitude parce que tous les êtres humains dans cette société, au fur et à mesure qu'elle se fragmente, perdent leur conscience. Ils astralisent leur conscience, donc ils s'éloignent du but fondamental de la vie sur un plan matériel, celui de construire avec des hommes qui ont un esprit, une intelligence, un amour et une volonté parallèles. Donc, la société aujourd'hui tend à créer et à imposer des conditions qui font en sorte que l'homme moderne, surtout dans les grands centres, devient de plus en plus seul. Et automatiquement, cet homme devient de plus en plus malheureux et il crée autour de lui de moins en moins de joie et ça se communique. Donc aujourd'hui, l'homme moderne est plus seul qu'il était il y a 20 ans, 40 ans, 50 ans. Et ça, c'est très dangereux parce que la société est incapable de donner à l'homme ce dont il a de besoin pour survivre psychiquement. La société est capable de donner à l'homme ce dont il a de besoin pour survivre matériellement, mais non pas psychiquement. Et si l'homme n'est pas capable de survivre psychiquement, quels que soient les aspects de la matérialité ou de l'abondance matérielle qu'il a, ces aspects-là ne pourront jamais convenir à son esprit, à moins qu'il soit très, très matériel. Et même là, parce que la vie peut facilement, à un certain moment, lui enlever ces choses-là. Le stock market peut tomber, par exemple. Donc, l'homme moderne est arrivé à un point où il doit résoudre le problème de la solitude. Il y a seulement une façon de résoudre le problème de la solitude. C'est que l'homme doit en arriver, éventuellement, à balancer les forces négatives et les forces positives en lui. L'être humain, c'est un être qui est fait de négativité et de positivité, pas dans le sens moral du terme, dans le sens simplement énergétique, comme une batterie. Dans une batterie, vous avez un pôle négatif, vous avez un pôle positif, il y a un échange qui crée une énergie. L'être humain, c'est la même chose. L'être humain possède de l'énergie négative dans le corps astral, pas négative moralement, négative au niveau de la polarité. Il possède une énergie positive dans le corps mental. Et la synthèse de ces deux énergies doit être faite, mais elle ne peut être faite parfaitement que par un autre corps en lui, qu'on appelle la conscience supramentale, l'intelligence pure. Donc, chez l'homme, l'émotion contient l'énergie négative, la partie animale de l'homme. Le mental inférieur contient l'énergie positive, et la conscience supramentale fait la synthèse des deux. Et aujourd'hui, il se produit que l'homme moderne, n'étant pas encore supramental, étant assiégé dans l'émotion et étant abasourdi dans l'intellect, est arrivé à un point où il n'est plus capable de faire la synthèse de l'énergie négative et positive en lui. Donc, il vit éventuellement le désarroi psychologique qui l'amène éventuellement à la solitude. La solitude, c'est très dangereux parce que ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas sain et ça ne fait pas partie de la vie. Ça fait partie de la mort. Et il y a beaucoup de gens qui vivent la solitude, non pas parce qu'ils ne pourraient pas vivre autrement, mais parce qu'ils ont des conditions psychologiques tellement déformées que l'énergie de leur conscience interne ne peut pas ou n'a pas suffisamment de force pour créer la balance entre l'énergie négative en eux et l'énergie positive en eux. Ils n'ont pas cette capacité de vivre leur vie au niveau de leur conscience réelle. Ils ne vivent leur vie qu'au niveau des impressions qui sont créées dans leur vie. Donc, s'ils perdent leur job, s'ils perdent telle chose dans la vie, l'émotion entre en jeu, l'énergie positive devient très forte, ou sur le plan mental, ils sont en désarroi, donc l'énergie positive dans le sens du mental, l'énergie négative dans le sens de l'émotion, ces deux énergies-là étant débalancées, il se crée chez ces gens-là un déséquilibre qui, si ça va trop loin, si ce n'est pas réétabli, créera une solitude. Le phénomène de la solitude, c'est un phénomène d'énergie, ce n'est pas simplement un phénomène psychologique. Le phénomène psychologique, c'est simplement l'observation, l'analyse, la compréhension mentale de l'état émotif. Un être qui est mental dans le mental supérieur, ne peut pas vivre la solitude parce qu'il est conscient, c'est-à-dire qu'il est bien avec lui-même. Mais si un être n'est pas bien avec lui-même, il ne pourra pas être bien avec les autres. Et s'il n'est pas bien avec lui-même, il aura peut-être l'impression d'être bien avec les autres tant et aussi longtemps que les autres l'aideront ou lui donneront l'impression d'un support. Mais si ça donne que les autres autour de lui lui enlèvent le support, il deviendra un être assujetti à sa propre condition, donc éventuellement il vivra la solitude. La solitude, c'est un état d'esprit qui se corrige. C'est-à-dire que c'est un état d'esprit qui requiert la compréhension des lois de l'homme. C'est-à-dire que l'homme doit comprendre les lois de son émotion, les lois de son mental inférieur, pour en arriver éventuellement, si ça fait partie de son évolution, de comprendre les lois du mental supérieur qui régit les aspects négatifs et positifs de sa polarité. À ce moment-là, il sort de cette solitude. Il y a un phénomène chez l'être inconscient qui est universel. Être inconscient, tous les êtres inconscients vivent ce que j'appelle, ou ce que je pourrais appeler, une condition existentielle assujettie à l'environnement. Donc, tous les êtres de la Terre vivent une condition de vie qui est assujettie à ce qui se passe autour d'eux. Si l'économie va bien, ça va. Si la religion va bien, ça va bien. Si l'économie va mal, ça va mal. Si la religion va mal, ça va mal. Si la politique va bien, ça va bien. Si la politique va mal. Dans différents aspects, selon leur liaison avec les différents systèmes de la conscience humaine. Et ça, c'est très dangereux. Et c'est d'ailleurs ce qui sera dépassé dans la nouvelle race en évolution. L'homme qui vit dans une société doit bénéficier de ce que la société au large produit, mais l'homme ne doit jamais être victime du processus de socialisation. C'est-à-dire que l'homme ne doit jamais être victime des conditions sociales pour son état interne. L'homme doit être bien dans sa peau, quel que soit ce qui se passe dans le monde. Si ça va bien dans le monde, c'est plus facile pour lui d'être bien dans sa peau. Si ça va mal dans le monde, il devrait être capable quand même d'être bien dans sa peau, parce que être bien dans sa peau, c'est la seule condition absolue de la conscience humaine. Tout le reste est relatif. Donc, si l'homme n'est pas capable d'être absolu dans sa conscience, il ne peut pas être bien dans sa peau, donc, selon les conditions extérieures, selon la fragmentation psychologique de la société, il subira les conditions planétaires de la civilisation. Et dans le cas où nous sommes aujourd'hui, à la fin du XXe siècle, surtout dans les grandes nations, dans les grands peuples, dans les grandes cités, dans les grands systèmes, l'homme est devenu victime de lui-même parce que il n'a pas réalisé l'importance de ne pas être capable d'être, seul. L'homme doit en arriver dans la vie à ne pas être capable d'être seul, ne pas être capable de se sentir seul. Un homme qui moindrement se sent seul ou sent de la solitude, c'est un homme qui manque de créativité. C'est un homme qui manque, où il y a un manque dans l'intelligence et dans la volonté. Qu'il y ait chez l'homme, pendant une certaine période, une certaine solitude, c'est normal, parce qu'il y a des ajustements dans la vie, il y a des raccordements, il y a des crises, c'est normal. Mais si l'homme n'est pas capable, éventuellement, de dépasser les crises de la vie qui créent la solitude, c'est qu'il manque en lui de la volonté, il manque en lui de l'intelligence, et s'il manque en lui ces deux aspects de sa conscience universelle, à ce moment-là, il est obligé de vivre sa vie d'une façon conditionnelle, c'est-à-dire d'une façon planétaire, et c'est ce que fait l'homme moderne. Donc, la solitude, c'est un tableau contre lequel l'esprit de l'homme est incapable de peindre sa réalité. L'esprit n'a plus de pouvoir parce qu'il n'y a plus suffisamment de lumière, c'est-à-dire d'intelligence ou de volonté dans l'esprit. Et s'il n'y a pas ces principes fondamentaux de la conscience supérieure de l'homme, de la conscience universelle de l'homme, il est évident que la solitude devient un bain dans lequel il trempe et qu'il peut tremper pendant des années. Et il peut rationaliser sa solitude. Il y a des gens qui facilement rationalisent leur solitude et ils n'ont jamais raison. Il y a des gens, par exemple, qui ont l'occasion, qui auraient l'occasion de répondre à un téléphone et dire, bon, on vous invite à aller au cinéma. Et ils ne voudront pas aller au cinéma, parce qu'ils ne veulent pas déranger, ils ne veulent pas imposer, pardon. Ou ils sont gênés, ou autrement dit, il y a toujours des attitudes, des mécanismes psychologiques dans l'homme qui créent la solitude. La solitude, elle est causée par l'individu lui-même, elle n'est pas prescrite par les forces cosmiques en lui, elle est le résultat d'une incapacité créative de trancher les questions de la vie, c'est-à-dire d'éliminer dans la vie ce qui crée cette condition humaine. Donc, l'homme qui vit et qui souffre de solitude par sa propre faute, et il en souffrira tant qu'il n'aura pas compris la nécessité de détruire en lui la forme qui crée la solitude. Parce que c'est tout, il y a toujours une forme qui crée une solitude. Que ce soit la gêne, que ce soit ci ou que ce soit ça, il y a toujours une forme. Et si l'homme en arrive pas un jour à détruire la forme qui le paralyse et qui crée la solitude, il demeurera solitaire, il sera malheureux, et il ne pourra pas créer de joie autour de lui, donc il ne pourra pas vivre de joie réfléchie en lui, et ce sera un être qui aura très peu sur le plan matériel à vivre, il ne pourra pas comprendre la terre, il ne pourra pas voir la beauté de la terre. Il sera simplement un être de plus en plus affecté par les conditions extérieures, donc il vivra une vie relative. Et s'il vit une vie relative, il perdra contact avec lui-même petit à petit, éventuellement, si ça va trop loin, il tombera dans des états sombres de l'esprit, qui pourront même l'amener, si les conditions relatives extérieures sont trop pressantes, à un déséquilibre émotionnel et mental, qui le mènera éventuellement à l'insanité ou à l'aliénation mentale. Donc, la solitude, c'est un tunnel qui est très long, et c'est un tunnel qui peut mener jusqu'à la folie, si ça va trop loin. Les cas où la pression extérieure. Si l'homme vit, si l'homme sent ou se sent seul, mais qu'il y a suffisamment d'équilibre autour de lui, ça peut aller. Mais si les conditions relatives dans sa société s'effondrent, si ça va de plus en plus mal, si la pression psychologique, psychosociale, psychocollective devient trop grande, il ne pourra plus prendre la solitude parce qu'un homme doit parler avec un homme pour comprendre la vie. Un homme ne peut pas simplement penser. On ne peut pas comprendre la vie en pensant, on la comprend en parlant. En pensant, on réfléchit sur la vie. Mais il ne faut pas réfléchir sur la vie, il faut créer dans la vie. Donc, si l'homme n'a pas d'amis avec qui parler, s'il n'a pas d'amis avec qui il peut échanger sur une même longueur d'onde, il est évident que, éventuellement, si la société atteint un cycle d'involution qui est final ou qui arrive vers une finalité, il vivra cette solitude d'une façon très, très pesante. Et si ça va trop mal, il ira jusqu'au bout du tunnel et éventuellement pourra aller jusqu'à la folie.
Outre cette solitude qui semble négative, une solitude dont la personne souffre de solitude, n'y a-t-il pas des solitudes apaisantes, calmantes, puisque, comme on disait tantôt, on meurt seul, de toute façon on arrivera à la mort seul?
Bon. Vous dites qu'on meurt seul. Quand vous dites qu'on meurt seul, c'est vrai, évidemment, on meurt seul. Si je meurs, c'est pas vous qui mourrez, c'est moi. Bon, on meurt seul, c'est évident. Mais ce n'est pas totalement véritable ce que vous dites, parce qu'il y a des gens qui meurent et qui, dans les derniers moments de la mort, autrement dit là où les corps se divisent, il y a une prise de conscience entre ces êtres-là et d'autres êtres qui vivent sur des plans invisibles et qui viennent les chercher. Donc, vous avez des gens, par exemple, qui vont mourir, qui vont mourir d'une belle mort, comme on dit. Pourquoi? Parce qu'ils voient dans leur chambre mortuaire, ils voient des gens, des amis, une femme, une fille, une cousine, qui viennent les chercher et qui les amènent lentement vers les grands paradis astraux. Donc, ce n'est pas une solitude qui est gênante, qui est difficile, c'est une solitude qui est vécue à l'unité, mais qui a un très très grand aura de paix. Par contre, vous avez d'autres êtres qui vont vivre la solitude d'une façon très gênante au moment de la mort. Il y a des solitudes qui sont bonnes, c'est-à-dire que ce sont des solitudes qui permettent à l'homme de vivre le repos de son esprit. Mais ça, ce sont des solitudes que l'on s'impose. Ce sont des solitudes que l'on veut s'imposer. À ce moment-là, on ne parle plus de vivre seul ou de souffrir d'être seul. On parle de se retirer dans un certain espace où seulement soi-même le remplit pour quelque conversion de notre propre énergie que nous voulons faire avancer ou perfectionner. Quand je parle de la solitude, je parle de la solitude négative. Je ne parle pas du fait que certains hommes peuvent se retirer dans un certain espace mental, psychique, pour vivre une autre expérience. Si nous voulons comprendre la solitude, il faut que vous me demandiez beaucoup de questions, parce que c'est très vaste la solitude, on peut en parler pendant des semaines. Donc, je vous laisse la parole.
On n'a que 2 heures pour en parler, et vous me permettez de dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que j'entends depuis le début avec Bernard de Montréal, parce que dans le fond, même le Christ a dû passer par la solitude lorsqu'il a dit « Père, Père, pourquoi m'abandonnes-tu ?» C'est pas le dû de chaque homme d'apprendre à vivre dans sa solitude, à chaque être humain plutôt que chaque homme, là, les femmes aussi. Mais que chaque être humain doit apprendre à vivre sa solitude, et ça, c'est peut-être le grand destin de l'incarnation. Incarnation.
Bon, là, vous parlez de la solitude d'une autre façon. C'est pour ça que c'est très... Si nous allons jeter de la lumière sur le phénomène de la solitude, il faut que nous parlions, vous et moi. Sinon, nous allons développer simplement des termes psychologiques de la solitude. Ça mène à rien. Si vous parlez du Nazaréen qui a vécu sa solitude, éventuellement, c'est normal qu'un initié, les initiés vivent la solitude. Mais le Nazaréen vivait la souffrance de son initiation, donc il devait la vivre seul, sa solitude, mais il n'était pas seul, un initié n'est jamais seul. Donc la solitude du Nazaréen, ce n'est pas la solitude de l'homme sur la rue Sainte-Catherine. Il ne faut pas confondre les solitudes. Si nous parlons de la solitude de l'homme, il nous faut reconnaître, et c'est très juste ce que vous dites, que l'homme doit être capable de vivre sa solitude. Ce que vous dites, dans le fond, lorsque vous parlez ou que vous dites que l'homme doit vivre sa solitude, ce n'est pas négatif. Il faut voir la solitude. Il y a la solitude négative, il y a la solitude positive, il y a l'amour négatif, il y a l'amour positif. Il faut toujours voir la polarité. Alors, il y a chez l'homme la nécessité de vivre ou d'être capable d'être seul. Un homme qui n'est pas capable d'être seul est un homme qui n'est pas capable de vivre seul. Et si un homme n'est pas capable de vivre seul, c'est qu'il manque en lui une certaine force. C'est qu'il a besoin encore de l'extérieur pour le nourrir. Et ça, à ce moment-là, ce n'est pas bon. Tous les êtres humains, un être humain complet devrait être capable de vivre seul. Mais vivre seul pour une certaine période de temps. Parce que si l'être humain est très très vibrant d'énergie et qu'il vit seul, il vivra seul pour des raisons qui conviennent à un aspect de sa vie, mais il ne vivra jamais seul d'une façon indéfinie. Il n'y a pas un être dans le cosmos, qu'il soit sur les plans invisibles ou qu'il soit sur le plan matériel, qui vit seul. La solitude, dans son aspect unitaire, n'existe pas. C'est une déformation de la réalité de la vie de l'esprit. Dans le cosmos, l'homme doit communiquer. Si l'homme est seul, si l'homme vit certaines expériences poignantes seul, c'est pour ajuster ses corps, c'est pour le rendre totalement autonome de l'extérieur. Mais ça, c'est une période qui est plus ou moins courte, ou qui est plus ou moins longue. Un être humain ne peut pas vivre seul indéfiniment parce que la créativité chez l'être humain nécessite qu'il y ait connexion, qu'il y ait interconnexion, qu'il y ait interrelation avec le monde. Donc un être humain, qu'il soit initié ou qu'il soit simple mortel, ne peut pas vivre seul indéfiniment. Il peut vivre certaines expériences seul, à l'intérieur desquelles il va transmuter son matériel énergétique, mais éventuellement il reviendra dans une société quelconque, dans un cercle quelconque, dans une fraternité quelconque, pour échanger, pour rendre public le fruit de sa transformation. C'est impossible à un être de vivre seul. C'est une condition qui n'existe pas dans le cosmos, puisque dans le cosmos, la condition fondamentale du mouvement de l'énergie de l'esprit, c'est la communication. Donc, s'il y a solitude dans la vie d'un homme, ça peut être temporaire, il doit être capable de la vivre d'une façon puissante, c'est-à-dire d'une façon où il ne souffre pas psychologiquement de la solitude. Mais un être peut être imposé de vivre une solitude sur le plan de l'énergie, et il doit être capable de la vivre, cette solitude, mais éventuellement, elle sera retournée, cette solitude, pour devenir une sorte de plénitude, c'est-à-dire un rapport très très exact avec les êtres, ses frères ou les hommes de la Terre.
Comme vous me dites que dans le cosmos, ça n'existe pas la solitude, Dieu est un, unique et seul.
Mais oui, mais vous faites de la philosophie, Dieu est un, unique et seul. Que vous savez-vous si Dieu est un, unique et seul? Qu'est-ce que vous savez de Dieu si c'est un, unique et seul? Dieu, qu'est-ce que c'est Dieu? Dieu, c'est une conception humaine. La conversion de l'énergie mentale en informatique céleste. Vous avez ça, ces mots-là? Bon. Bon, qu'est-ce que c'est? Dieu est seul. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est seul? Ce sont des mots qui sont employés par l'homme pour permettre à l'homme de réaliser l'unité dans le cosmos, l'unité de l'absolu. Mais de dire que Dieu est seul, ça veut absolument rien dire. C'est l'homme qui est seul. Le phénomène de la solitude, c'est pas un phénomène divin, c'est un phénomène mortel. Ce n'est pas divinisant d'être seul. On doit apprendre à convertir l'énergie de notre mental supérieur en énergie qui formule des aspects de la réalité qui conviennent non pas à notre émotion, mais qui conviennent à la réalité de notre mental. De dire que Dieu est seul, ça ne veut absolument rien dire, c'est simplement jouer avec des mots pour créer un état d'esprit psychologique qui nous permet d'aller plus loin dans la conversion du concept de solitude. Mais Dieu n'est pas seul, et Dieu n'est même pas ce que nous pensons. Dieu n'est pas ce que nous pensons, ce que nous pensons c'est simplement de la foutaise. Nous sommes de la foutaise, dès que l'homme pense, il est foutaise. C'est lorsque l'homme parle qu'il devient intelligent. Ce n'est pas lorsque nous pensons. Et le problème, c'est que nous parlons des choses que nous avons déjà pensées. Il ne faut pas parler de choses que nous avons déjà pensées, parce que déjà nous parlons de la foutaise. Donc nous devons parler des choses que nous n'avons jamais pensées. Nous devons parler des choses qui n'ont jamais été pensées. Donc, nous devons créer constamment avec le mental supérieur une forme, parce que l'énergie entre dans le mental, fait vibrer les neurones et rejette dans le monde quelque chose qui n'existe pas au niveau de la forme, mais qui existe au niveau de la réalité et que nous devons découvrir au niveau de la réalité au fur et à mesure que nous parlons de la réalité. Mais si nous conversons ou si nous parlons de choses qui ont déjà été pensées, à ce moment-là, c'est comme manger du lait caillé et nous nous rendons malades. De dire que Dieu est seul, ça ne veut rien dire. On peut même pas dire si Dieu écoutait ça, il rirait, parce que ça, c'est penser des choses que nous pensons. Donc, nous ne sommes pas capables nous devons éventuellement créer des choses, créer des formes qui nous permettent de canaliser de l'énergie qui change la vibration de notre mental pour altérer la dimension psychologique de notre mental inférieur et de notre émotion. C'est à ce moment-là que nous commençons à comprendre ce que nous sommes, de comprendre ce qui est, et comprendre l'infinité de la réalité et de ne pas nous laisser prendre dans les formes et incapable d'être autrement, changer sa condition. L'être humain, c'est un être créateur ou il doit devenir un être créateur, non pas simplement un être mécanique. L'homme doit changer sa condition. Si l'homme souffre de la solitude, il doit tuer la solitude. Si l'homme il est pauvre, il doit tuer la pauvreté. Si l'homme il est ci, il doit tuer ceci. L'homme doit tuer tout ce qui n'est pas créatif en lui. Et à ce moment-là, il devient plein, il vit la plénitude. À ce moment-là, la solitude n'existe pour lui que s'il veut bien la vivre, pour la transmutation de ses corps subtils, pour vivre un état d'énergie où seul lui peut vivre cet état d'énergie. Mais lorsqu'il retourne dans le monde, il n'est plus seul.
Si tous les hommes étaient créateurs en même temps, un peu comme le Christ pouvait le faire, le Nazaréen, sur l'embarcation qu'il conduisait sur le lac de Tibériade, il décidait qu'il fasse soleil après la tempête, mais que l'autre à côté décide qu'il continue à pleuvoir pendant que l'autre voulait qu'il fasse soleil. Vous remarquez tout de suite que tous les génies, tous les grands initiés étaient seuls.
Oui, mais les initiés ne sont pas des génies. Les génies, ce sont des petits hommes avec des grosses têtes. Les initiés sont des êtres. Ce sont des êtres complets. Ce ne sont pas des petits hommes avec des grandes têtes. Vous ne pouvez pas comparer le Nazaréen à un génie. Ce n'était pas un génie, le Nazaréen. C'était un homme très simple.
Donc, quand j'ai dit les génies, point virgule, et Jésus le Nazaréen. Là, on ne fait pas de la littérature, mais quand même, c'était pour dire que les génies aussi, on les retrouve seuls.
Les génies sont seuls parce que les génies, ce sont des êtres qui ont des défaillances. Les génies, ce sont des fruits qui sont très, très beaux, ils sont très gros, mais ils ont des faiblesses. C'est ça, être un génie. Être un génie, c'est avoir une faille. Autrement dit, le génie, c'est un homme qui n'est pas complet, mais qui, à cause de son évolution et à cause du travail qu'il doit faire sur une planète, a développé certaines facultés qui sont au-delà de la normale humaine. C'est ce qui les rend géniaux, génial, si vous voulez. Mais ils ont des faiblesses. Le génie, ce n'est pas un surhomme. Le génie, ce n'est pas un homme complet. Le génie, ce n'est pas l'homme de la sixième race. Le génie, c'est l'empreinte de la mémoire cosmique dans l'homme de la cinquième race racine. Le génie, c'est un être qui n'est pas total. Le génie, c'est un être qui doit mourir. Le génie, c'est un être qui doit revenir sur la vie. Le génie, c'est un être qui doit un jour ne plus être génie, mais être conscient. Être génie, ça fait partie du karma de l'homme. Être génie, ça fait partie de la mémoire de l'être humain en évolution. Être génie, ce n'est pas un cadeau. Être génie, ça nous rapporte sur le plan matériel certains honneurs, et ainsi de suite, et ça sert à l'évolution de l'homme. Mais les génies sont des êtres qui souffrent. Pourquoi? Parce qu'ils sont des génies. Vous connaissez des génies qui ne souffrent pas? On dit souvent génie, folie, ça va ensemble. Ce n'est pas très très gentil de dire ça. Mais dans le génie, dans tous les génies, dans tous les hommes qui vivent des extrapolations psychologiques, qui ont des mémoires fantastiques, qui ont une capacité analytique qui dépasse la moyenne, il y a des facultés psychiques chez ces êtres-là auxquelles ils sont assoumis. Soumis auxquels ils sont assujettis. Le génie, c'est un homme qui a un karma à vivre. L'homme doit dépasser le stage du génie. Il doit devenir un être supramental. Il doit devenir un être qui est totalement intégré dans sa conscience supérieure. Pour parler de génie, nous parlons de génie aujourd'hui parce que la masse humaine est tellement ignorante, elle est tellement incapable de créativité, mais il y a des civilisations où être un génie, c'est aussi normal que pour nous d'être ignorant. Donc, la géniocratie, les génies, il ne s'agit pas pour un homme d'être un génie, il s'agit pour un homme d'être bien dans sa peau. Si un homme est un génie, il n'est pas bien dans sa peau, il est mieux d'être sans dessin et bien dans sa peau.
Si je reprends une explication que Bernard nous a déjà donnée dans le passé, nous disant que notre société est la pyramide aplatie, mais que le meilleur système est le système pyramidal dans notre politique, dans notre science, dans notre économie, et qu'au départ, si on pense à la pyramide, on va remonter vers la pointe, et à la pointe, au sommet, il n'y a pas la multitude, mais il y a la solitude.
Il y a la solitude, il y a une solitude cosmique. Si nous avions, par exemple, une république impériale, ou si nous avions une république dans le sens cosmique du terme, c'est-à-dire une pyramide où vous avez des initiés au-dessus d'une pyramide, effectivement, il y a une solitude dans ce sens que, vous savez, la solitude d'un initié ou la solitude d'un être qui est à la pointe d'une pyramide, ce n'est pas une solitude psychologique, c'est une solitude de compréhension. Mais ce n'est pas une solitude vide, c'est une solitude pleine. Un homme qui est Un être humain qui est un initié, autrement dit, un être humain qui est en contact avec la conscience supramentale d'une façon totale, ne souffre pas d'être seul. Il ne souffre pas d'être seul parce que sa solitude se remplit constamment. Elle se remplit, sa solitude. Elle se remplit par le fait qu'il est déjà en conversation ou en contact avec une énergie qui est totale. Donc, il est seul par rapport aux hommes, c'est-à-dire qu'il ne peut pas expliquer, si vous voulez, ou parler, si vous voulez, ou rejoindre, si vous voulez, toute la masse à la base de la pyramide, mais il peut facilement descendre à la base de la pyramide et ajuster ses vibrations et parler au peuple qui est là. C'est normal. Un être qui est seul dans le sens cosmique du terme, ce n'est pas un être qui réserve ou qui est réservé à lui-même, c'est un être qui est maintenu à l'intérieur de lui-même, mais qui peut facilement entrer en relation avec les hommes à la base de la pyramide. Ce n'est pas le même phénomène de solitude. Il ne faut pas mélanger la solitude des initiés avec la solitude psychologique de l'homme. Ce n'est pas une solitude. L'initié ne vit pas... L'initié, il est solitaire dans son intelligence. Il est seul dans sa compréhension. Il est seul dans sa capacité de réaliser certaines choses parce qu'il a lui-même cette vibration. C'est un phénomène de vibration. Mais ce n'est pas un phénomène psychologique. La solitude, elle commence et elle se termine à l'intérieur de la psychologie humaine. Quand nous parlons de solitude, nous devons parler de solitude psychologiquement, non pas vibratoirement. Un homme qui est vibratoire, qui a une conscience vibratoire, qui a une conscience supramentale, autrement dit, n'est pas seul, même s'il est seul, n'est pas seul. Mais un homme qui a une conscience psychologique peut être seul. Ou il peut ne pas être seul, mais il sera toujours seul. Les hommes sont toujours un peu seuls, mais pourquoi ils sont un peu seuls? Parce qu'ils ne sont pas pleins d'eux-mêmes, autrement dit. Ils n'ont pas la connexion, ils n'ont pas conscience, ils ne sont pas en relation vibratoire avec l'énergie qui fait la synthèse de leur émotion et de leur mental, ce qu'on appelle la conscience supramentale.
Vous avez souvent parlé d'être centrique. La centricité n'est-il pas déjà un phénomène de solitude?
La centricité, c'est l'habilité de l'homme d'en arriver à ne plus être seul socialement parce qu'il n'est plus seul avec lui-même. Donc, la centricité, c'est un état d'esprit qui permet à l'homme, sur le plan mental, sur le plan émotionnel, en conjonction avec la conscience supérieure, c'est-à-dire la conscience supramentale, de pouvoir, à l'instantané ou instantanément, d'exploser ou de faire ou de rendre dans le monde son énergie. Au lieu de vivre de l'énergie du monde, il rend dans le monde son énergie. Autrement dit, être centrique, c'est être créatif à un certain niveau. Et un être qui est centrique peut vivre la solitude physique, mais il ne vit jamais de solitude psychologique, puisque pour être centrique, ça nécessite qu'il y ait un contact entre le mental inférieur de l'homme, ou ses plans intérieurs, et sa conscience supérieure.
Alors, si on en venait à des cas concrets, la femme qui est abandonnée par un mari qui est parti pour d'autres horizons, avec d'autres gazelles, elle vit une solitude. Oui. Marie qui revient à la maison et puis il n'y a plus d'écho dans la maison, il n'y a plus personne. Il vit une solitude. Comment concrètement, si vous n'êtes pas psychologue, là, mais supramentalement, vous allez aborder ces cas de solitude? Parce qu'on va en arriver graduellement à parler du suicide, qui est une plaie actuellement dans notre société, chez les jeunes qui se suicident en grande quantité. Alors, j'aimerais graduellement qu'on arrive à des cas concrets de gens qui vivent la solitude. Il y a des gens mariés qui sont à regarder la télévision tous les deux dans la même direction, mais ils ne se parlent plus. Ils vivent donc déjà une solitude psychologique, encore une fois, mais ça devient dangereux au point de les amener au suicide. À partir de quel moment, là, quand on regarde ça sur le supramental?
L'homme, la solitude devient dangereuse à partir du moment où l'homme perd conscience qu'il est capable de transformer sa vie d'une façon intégrale. C'est-à-dire que la solitude devient dangereuse à partir du moment où l'homme perd la notion de sa capacité de transformer sa vie. Aussitôt que l'homme se sent écrasé par les événements de la vie et qu'il n'est pas capable de ressusciter en lui l'énergie émotionnelle, l'énergie mentale, à partir d'une conscience supérieure ou d'une sensibilité à lui-même, à ce moment-là, sa solitude devient dangereuse parce qu'il est écrasé par des événements extérieurs qui font partie de son évolution, qui font partie de son expérience, qui font partie de son karma, qui font partie de certaines conditions qui peuvent très bien lui être cachées. Donc, ce n'est pas la condition psychologique ou physico-psychologique de l'homme qui doit être le centre nerveux de sa condition future, c'est sa conscience, sa réalisation, sa force interne, son intelligence réelle, son émotivité pure. Ce qui arrive, ce qui crée dans notre société la grande faiblesse, autrement dit, le retirement de l'énergie émotionnelle dans le cas de cette solitude qui vient ou qui résulte de la scission dans un couple, c'est que l'individu qui en subit la condition n'est pas capable de ressusciter en lui par ses propres forces les énergies qui lui ont été enlevées à cause d'une dominante, c'est-à-dire à cause d'un lien créé par l'amour ou créé par le besoin de la sécurité matérielle, par un autre être. L'être humain est un être qui est intrinsèquement, naturellement, dans le phénomène de la scission dans un couple, il y a plusieurs aspects. Il y a des hommes et des femmes qui se séparent pour différentes raisons. Les hommes ne se séparent pas pour les mêmes raisons. Il y a beaucoup plus d'infamie dans la séparation des couples que d'intelligence. Dans les couples où il y aura de l'intelligence comme étant la force motrice à la séparation, il y aura une ressuscitation éventuelle de l'énergie. Dans les couples où il y a de l'infamie dans la scission des couples, il y aura une expérience pénible qui, dans certains cas, selon les individus, pourra les amener à reconstruire leur vie, et dans d'autres cas où, à cause de la faiblesse émotionnelle, la faiblesse mentale, le découragement, ainsi de suite, qui naît de ceci, mènera l'individu au suicide. Mais ça fait toujours partie de la vie de l'homme. L'homme, la fonction de l'homme sur la terre, de tous les hommes sur la terre, c'est d'être capable éventuellement de transiger avec les forces de la mort, c'est-à-dire de transiger avec les forces qui ont tendance à le faire revenir à la mort. L'homme doit apprendre sur la terre à convertir l'énergie de la mort, qui est l'énergie de l'imagination, l'énergie de l'astral, en énergie créative pour pouvoir se fixer dans la matière, pour en arriver à aimer la vie, pour en arriver à pouvoir créer quelque chose de bien dans la vie. Sinon, s'il ne fait pas ceci, il sera happé petit à petit par les forces de la mémoire, par les forces de l'émotion, par les forces de l'imagination, ainsi de suite. Et ces forces-là font partie de la conscience inférieure de l'homme. Et ce sont ces forces-là qui le rappelleront lentement à la mort. Donc, le phénomène du suicide relié à la scission dans les couples, c'est un phénomène qui naît de l'incapacité chez l'individu d'absorber le choc de l'expérience et de transmuter cette énergie dans une vibration plus puissante, sachant que, ayant de la volonté, ayant de l'intelligence, il est capable de transmuter la condition et de s'amener à une condition qui sera demain meilleure. Donc, tout revient à la volonté, tout revient à l'intelligence. Mais le problème dans les couples de la Terre, c'est que les couples de la Terre, tels qu'ils ont été créés pendant l'évolution, sont des couples qui sont fondés sur le besoin de l'un de l'autre, un besoin émotif. Les couples ne sont pas réels. Ce sont beaucoup plus des couples sanctionnés par la religion ou sanctionnés par l'état civil que des couples créés par l'intelligence réelle de l'homme. Donc, ces couples sont sujets, si les conditions changent trop dans la société, ou s'il y a des manquements quelconques, ils sont sujets quelque part dans le temps, et nous le voyons aujourd'hui dans le monde, à un changement, à une scission. Et à ce moment-là, les hommes ou les femmes, s'ils ne sont pas préparés à convertir leur énergie dans une vibration plus haute, vivront cette dissolution dans le couple et en souffriront. Mais ce sera parce qu'ils n'auront pas été capables de transmuter les lois de la vie planétaire, c'est-à-dire les lois de l'expérience. Il faut que l'homme en arrive un jour à dépasser l'expérience, dépasser la condition. Et tout ceci fait partie du plan de vie de l'homme. L'homme rencontre dans la vie, ou la femme rencontre dans la vie, tel personnage. Et ce personnage représente pour elle ou pour lui une condition de joie, de bonheur, ainsi de suite. Ils sont jeunes, ils ont 18 ans, ils ont 20 ans. Rendu à 20, 30 ans, la vie change, mais tout ceci fait partie du plan de vie. Et si ces gens-là n'arrivent pas un jour à comprendre leur couple, c'est-à-dire à le créer leur couple, ou à le vivre d'une façon autonome, quand je dis d'une façon autonome, je ne veux pas dire dans l'esprit d'un certain libertinage, je dis dans l'esprit d'une condition permettant à l'homme et à la femme d'être des êtres totalement centriques, de pouvoir échanger entre eux, à ce moment-là, il peut se créer une dépendance. Il y a dans le monde des hommes qui dépendent émotivement de leur femme. Il y a des femmes qui dépendent émotivement de leur mari. Et si ces êtres-là vont dans la vie ou vivent dans la vie ou vivent les pressions sociales, il peut très facilement se créer des conditions où cette dépendance sera mise en jeu, sera questionnée par la vie afin qu'il y ait un perfectionnement dans le couple, qu'il y ait une plus grande intelligence dans le couple, ce qu'on pourrait appeler la transmutation dans le couple, la transmutation du couple. L'être humain, un couple, ce n'est pas de l'accouplement, et un couple, ce n'est pas non plus de l'esclavage. Donc, si dans le couple, il y a simplement de l'accouplement, ou s'il y a de l'esclavage, ce n'est pas un couple, ce n'est pas la création de l'homme et de la femme à partir du mental supérieur, c'est une condition qui est le résultat d'un paramètre émotionnel ou d'un paramètre psychologique, que peut-être que le bonhomme a beaucoup d'argent, ou que la bonne femme, elle est très bien rondée, mais ça, ce ne sont pas des valeurs réelles. On ne peut pas former un couple sur des aspects psychologiques, on doit former un couple sur des aspects qui relèvent de notre intelligence pure, et c'est de notre intelligence pure que nous pouvons voir les possibilités de notre couple. Et lorsque l'homme voit les possibilités du couple, il ne voit plus les limites du couple. Et même s'il y a dans le couple des limites, ces limites-là ne sont plus importantes parce qu'elles sont déjà dépassées par les possibilités.
Vous me faites penser au thème de la soirée qui s'intitule « La solitude ». Ne pourrait-il pas aussi avoir des solitudes de couple?
Oui, il y a solitude dans le couple parce qu'il y a des couples qui restent ensemble ou qui sont ensemble parce que les deux individus ont peur de perdre l'équilibre psychologique, social, financier, émotif, que leur apporte le couple. Et ce sont des équilibres qui ont été créés pendant des années de temps, ainsi de suite. et les deux êtres vivent une solitude parce qu'il n'y a pas entre eux de pont, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation mentale suffisante en eux pour que les conditions du couple soient transmutées. Donc, les deux sont des couples, ils sont un couple, mais ils ne sont pas réels dans leur couple. Donc, ils ne peuvent pas vivre leur couple d'une façon guitare, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas trouver dans leur couple l'énergie nécessaire pour constamment transmuter leur vie, constamment donner à leur vie une dimension profonde, une dimension sans limite. Donc, ils sont esclaves de leur couple. Et si ils sont trop esclaves de leur couple, ils peuvent leur vivre leur couple pendant des années de temps.
Est-ce que c'est la seule porte de sortie sur la Terre de vivre en couple?
Vivre en couple, c'est la plus belle sortie et c'est la plus belle condition de vie de l'homme. Vivre en couple, ça veut dire pouvoir parler avec quelqu'un dans la nuit. Ça veut dire pouvoir parler avec quelqu'un le jour. Ça veut dire pouvoir créer possiblement une tierce personne qui crée une famille, et ainsi de suite. Donc, vivre en couple, c'est la nature même des choses, ça fait partie des lois de la Trinité. C'est, moi je parle souvent du couple, où je semble souvent jeter sur le couple une certaine poudre, parce que je sais très bien qu'il y a beaucoup de couples qui ne sont pas réels, ou je sais très bien que des couples qui ont un fond de réalité, mais qui est un peu brumeux. Alors, je jette de la poudre sur le couple, je parle de la transmutation du couple. Un couple doit être, dans un couple, l'alliance entre un homme et une femme, ce doit être une alliance qui est parfaite. Parfaite au niveau des besoins du couple. Autrement dit, ce n'est pas un autre couple qui peut dicter à un autre couple ce qui est nécessaire à l'intérieur de ce couple. C'est le couple qui comprend, qui sait et qui est capable de vivre selon les conditions de sa vibration. Alors, le couple doit être vécu d'une façon très, très intelligente, et pour le vivre d'une façon très intelligente, souvent, il faut l'amener à se débarrasser des antiquités. Il y a des couples qui sont trop antiques. Il y a des couples sur lesquels, ou à l'intérieur desquels, il y a trop de poussière. Il faut qu'il y ait de l'éclaircissement, il faut qu'il y ait un ajustement. Je vous donne un exemple. On va prendre, par exemple, vous avez des couples, et ça fait partie de la nature humaine. Hein. Vous avez des hommes et des femmes qui sont ensemble. On prend surtout les jeunes qui s'aiment, qui ne sont pas encore des couples au niveau de la famille, ainsi de suite, qui sont simplement accouplés pendant un certain temps, qui s'aiment, qui sont liés par l'amour humain, astral, émotif, le romantisme, ainsi de suite. Vous avez dans ces couples des petites périodes. Chez certains, c'est à tous les deux semaines. À tous les deux semaines, il faut qu'ils se barrent un peu. Alors, ils se fouettent un petit peu. Et quand ils se sont fouettés, ils s'aiment et ils retournent dans le lit et ils recoulent. Et deux semaines plus tard, encore la même chose, et ils recoulent. Surtout pendant la période où la femme est dans son cycle menstruel. Et là, encore, ça crée encore ces bavures et ensuite on recoule. Et il y a des couples comme ça qui recoulent pendant des années. Mais ce qui arrive, c'est que si on recoule trop, éventuellement, et qu'on ne comprend pas le phénomène du recoulement, on coule. Alors, je n'ai absolument rien contre le fait que les gens se fouettent un petit peu pour ajuster et comprendre, se comprendre mieux. Rendu à 60 ans, 65 ans, on ne se fouette pas tellement, on s'est tellement fouetté qu'on prend un break. Mais quand on est jeune, on a la peau dure, donc on se fouette un petit peu et on recoule. Et c'est l'histoire des amoureux. Et c'est très bien, c'est l'histoire des films. You break up, puis reconnect, puis tout ça, là, tout ce qu'on connaît. Là. Mais au moins, dans ces couples-là, on sent qu'il y a quelque chose de très puissant qui les tient. Et c'est l'intelligence de leur esprit qui leur permet de vivre un amour qui est suffisamment réel pour dépasser les conditions du fouettage. Et quand ils recoulent, ils ont oublié tout, ainsi de suite. Mais, par contre, il y a des couples qui se fouettent, et qui se fouettent non pas parce qu'ils s'ajustent au niveau de leur esprit, mais parce qu'il y a des aspects en eux qui ne sont pas totaux. C'est-à-dire que la femme, elle a quelque chose qui ne va pas, l'homme a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose dans le couple qui ne va pas, il y a une faille dans le couple qui est profonde, mais la finance, les conditions, l'enfant, et ainsi de suite, il y a des conditions qui sont tellement fortes qui empêchent que ce couple se dissoudre. Et ce sont ces gens-là qui se fouettent un peu trop. Et nous avons dans les journaux, et ainsi de suite, des histoires où l'homme et la femme se sont trop fouettés. Et ça, c'est une autre sorte de couple. Ce sont des couples malheureux. Ce sont des couples qui sont inévitablement amenés à la séparation éventuellement parce que les forces de l'esprit sont trop grandes. Remarquez que l'esprit, qui est la force nominale de l'homme, c'est une énergie qui veut toujours être libre. Il n'y a rien de plus libre dans le cosmos que l'esprit de l'homme. Et quand je parle de l'esprit de l'homme, je parle de l'énergie de l'homme qui passe dans le mental, dans l'émotion, dans le vital et dans le physique. Donc cette énergie dans l'homme, qui est une énergie évolutive, qui fait évoluer les principes inférieurs de l'homme, elle doit et elle veut être libre. Elle n'a aucune, l'esprit de l'homme n'a aucune objection au couple. D'ailleurs, c'est l'esprit de l'homme qui crée le couple. L'esprit de l'homme qui crée le couple, il le crée avec une femme, il le crée avec un homme, ou il le crée avec deux hommes, ou il le crée avec deux femmes, ça n'a sans importance, mais il crée le couple. Donc, l'esprit veut bien créer le couple, mais il veut être libre, évolutivement, à l'intérieur du couple qu'il a créé. Maintenant, si à l'intérieur du couple qu'il a créé, l'ego met en échec la liberté évolutive de l'esprit, éventuellement, il y aura des situations créées par l'esprit pour permettre que les deux égos évoluent. C'est la loi de la vie.
Là, vous venez de dire des couples créés entre un homme et une femme, d'accord, c'est visible, c'est naturel, et ça peut faire des enfants forts, mais deux femmes ou deux hommes qui créent un couple?
Deux femmes ou deux hommes, que ce soit deux femmes ou deux hommes, un couple créé par deux femmes ou un couple créé par deux hommes, c'est un couple. N'oubliez pas une chose, que lorsque nous concevons, nous pensons couple, nous, les hommes, nous pensons couple selon les conventions de notre culture. Le couple dans la civilisation judéo-chrétienne, le couple en Polynésie, le couple en Afrique, ce sont des couples différents. Donc, il y a des peuples qui... vous avez un homme avec et 15 femmes. Alors, vous savez, le concept du couple, c'est un concept qui est fondamental aux lois de la vie, aux lois de la polarité, mais il n'est pas vécu de la même façon dans tous les peuples. Donc, nous, les hommes, dans le monde occidental, lorsque nous parlons du couple entre homme-homme ou femme-femme, nous avons tendance à développer de grands sourcils. Pourquoi? Parce que nous réfléchissons sur la condition psychologique du couple. Nous n'avons pas l'intelligence des lois de l'esprit qui forment le couple. L'esprit, c'est une condition de l'homme, c'est une condition de l'intelligence qui n'est pas restreinte par la relativité morale, spirituelle, philosophique, analytique, culturelle, civilisatrice, tribale de la condition planétaire. L'esprit est ici. L'esprit, c'est de la lumière. L'homme, c'est le réceptacle. L'homme vit de son esprit et vit une certaine expérience. Le couple homme-homme, femme-femme, qui comprend la nature de l'esprit, qui les unit, qui a créé le couple, ne souffre plus dans son couple. Un couple qui est homosexuel ou lesbien, un couple qui est tel et qui connaît les lois de l'esprit, ne souffre plus psychologiquement dans son couple. La raison pour laquelle ces gens souffrent dans leur couple, c'est parce qu'ils le vivent sur le plan psychologique et qu'ils sont bombardés constamment de l'extérieur. Ils sont jugés constamment de l'extérieur. Et les hommes et la société ne réalisent pas que l'être humain, dans sa condition d'évolution, dans son plan de vie, ne régit pas les lois de son esprit et n'est pas responsable sur le plan humain des conditions imprimées par son esprit dans son émotion, dans son mental, dans son vital et dans son physique. L'homme, ce n'est pas ce que nous voyons dans la chair. L'homme, c'est la concrétisation du rapport entre l'énergie de son esprit et les plans subtils de sa conscience. Donc, l'homme, c'est l'équilibre entre l'énergie de l'esprit, le mental, l'émotionnel, le vital et le physique, c'est ça l'homme, et c'est simplement un aspect de l'homme. Il y a un autre aspect de l'homme qui est beaucoup plus invisible, beaucoup plus occulte, que nous pouvons appeler l'homme éthérique, l'homme éthéré, où la conscience sort du corps matériel et regarde le corps matériel, il revoit ce corps matériel comme simplement une coque, et où la réalité, elle est fixée ici, dans l'éther. Donc, nous avons... Les hommes ou les femmes qui sont accouplés ensemble, nous avons à reconnaître les lois de l'esprit. Et lorsque nous reconnaîtrons les lois de l'esprit, nous ne souffrirons plus en tant que couple non hétérosexuel. Nous vivrons notre couple selon les lois de l'esprit et non selon la dictée ou les convenances de la civilisation qui régissent les aspects émotifs et mentaux de l'accouplement, mais qui sont incapables de comprendre les lois parfaites et précises de la vie qui sont imposées dans l'évolution, dans l'incarnation, par l'esprit de l'homme.
Pourrait-on parler de couple à un autre niveau? Je pense à Mozart qui formait un couple avec son piano, ou à l'écrivain qui forme un couple avec son papier sur lequel il va écrire.
Ce n'est pas réellement un couple, c'est une affinité psychologique qui relève de l'amour de l'être pour l'objet qui lui rend de service sur le plan créatif. C'est un peu comme la petite fille qui adore sa poupée, ainsi de suite. Cet épanchement émotionnel envers l'objet qui nous rend un certain service, qui nous permet de remplir une certaine solitude créative. C'est une façon poétique de développer entre soi-même et l'apex de notre créativité, un autre sommet avec lequel nous pouvons converser sans langage. Mais ce n'est pas un couple. Les grands artistes ont toujours eu dans leur vie ces femmes, ces belles femmes ou ces sensibles femmes avec lesquelles ils ont conversé par littérature, s'ils n'ont pas conversé par recoulement. Donc, Beethoven avait son Héloïse. C'était un couple à distance, parce qu'il était trop épris de son piano et les conventions de son temps empêchaient qu'il y eût une autre manifestation de son amour. Mais nous pouvons aller à l'infini sur les qualités du couple. Mais marier un piano, c'est pas la fin du monde.
C'est un piano à queue.
Si c'est un piano à queue, ça tombe dans la catégorie de l'hétérosexualité.
Bernard, on va se laisser là-dessus après cette première heure.